Monsieur, j'aimerais vous demander d'abord, depuis combien de temps vous êtes à Orléans?
Depuis combien de temps je suis orléanais? C'est-à-dire que je suis né à Orléans de
Oui.
parents orléanais. Alors,
Oui.
j'ai toujours été orléanais.
Oui. Vos parents sont nés ici aussi, ou?
Mes parents, mon père est né à Orléans, oui, et ma mère est née dans les environs de. Enfin, si, elle était orléanais, mais de parents qui ne sont pas orléanais.
Oui.
Enfin, la famille, à grosse majorité, est d'origine orléanaise.
Ah oui.
On est des vieux orléanais.
Est-ce que vous avez eu jamais envie d'aller ailleurs?
Ma foi, non. Pour le moment,
Non.
du fait que ma profession m'a fait rester à Orléans, je me suis pas posé la question si je me plairais davantage ailleurs.
Non. Non. Et votre famille a toujours été une famille vinaigrière, est-ce qu'on dit, ou?
Vinaigrière, oui, enfin, si vous voulez, on peut employer le terme, quoique
Oui.
ce n'est pas tellement joli, mais
Non,
enfin,
je m'excuse.
ça se dit, non, mais
Une famille de fabricants de vinaigre.
bah, c'est-à-dire que, comme je vous le disais l'autre jour, c'est mon père qui a racheté l'affaire où mon grand-père était lui-même fondé de pouvoir.
Oui.
Alors, on a été dans le vinaigre depuis déjà, c'est la troisième génération, quoi.
Et vous avez fait vos études à Orléans
Oui,
également? Oui.
également, oui.
Oui, jusqu'à quel âge est-ce que vous avez
Eh bien,
suivi?
j'ai fait des études jusqu'en 1946. Oui. Et puis, ma foi, en 1946, alors 40, oui, 46, en 47, je suis parti au régiment, et puis, ma foi, après, je suis rentré dans la vie directement, sans pousser mes études plus loin.
Ah
Oui.
oui. Est-ce que enfin c'était automatique que vous entriez chez votre père ou?
Non, c'est parce que les événements sont déroulés incidemment comme ça, parce que à l'origine, c'était plutôt mes deux frères aînés qui devaient rentrer dans l'affaire. Et comme ça s'est pas fait, c'est un autre, mon frère, le troisième frère, et puis moi qui sont rentrés dans l'affaire. Mais ça s'est fait incidemment, parce que les deux autres n'y sont pas rentrés.
Ah
Et
oui.
voilà.
Alors, est-ce que c'est maintenant vous et votre frère qui dirigent
Oui. Oui, maintenant,
vinaigrerie?
c'est
Oui.
tous les deux.
Oui. Ah oui.
Mais enfin, au départ, c'était pas prévu comme ça, si vous voulez.
Non. Non.
Enfin.
Vous aviez peut-être pensé à faire autre chose?
Non, pas spécialement à ce moment-là, puisque j'étais encore tout jeune quand ça s'est déroulé, et que quand je me suis trouvé que la place était libre, que mon père m'en a parlé, j'ai accepté, et puis je suis rentré là. Et du fait d'événements particuliers à ce moment-là, je dis, j'ai arrêté mes études, et puis. Je suis rentré dans le vinaigre très jeune, pratiquement.
Ah oui.
Et puisque j'avais 20 ans, quoi.
Oui. Alors votre père avait acheté l'entreprise, je crois, vous avez dit.
Oui, mon père a acheté l'entreprise en 1919 ou 20, enfin en rentrant de la guerre de 14,
Oui. Mais la
14-18.
vinaigrerie existait avant cela.
Ah oui, la maison a été fondée en 1810.
Oui. Comment est-ce que la
Comment
maison
elle s'appelait à l'époque, ça je ne peux pas vous dire, en
Non.
1810. Je sais que avant mon père, ça s'appelait Séjourné Barbet, mais avant, auparavant, ça je ne sais pas du tout. Ça je ne peux.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de. Enfin, qu'il n'y a pas beaucoup, mais qu'il y a plusieurs vinaigreries à Orléans. Pourquoi est-ce que le vinaigre s'établit
Ah ben ça, c'est une
spécialement?
histoire qui remonte assez loin, puisqu'elle remonte au temps où la Loire était navigable.
Oui.
Alors, les péniches charriaient du vin sur la Loire et le vin était déchargé à Orléans pour remonter sur Paris, à ce moment-là, par omnibus ou par chemin de fer. Et alors, les vins qui, en cours de route, comme le voyage était assez lent, les vins qui, en cours de route, s'avariaient, étaient vendus sur place au rabais pour faire moins de transport. Et alors, à ce moment-là, des tonneliers. C'est-à-dire des artisans qui fabriquaient des tonneaux ou qui réparaient des tonneaux, achetaient le vin, avaient des tonneaux eux-mêmes qu'on appelle maintenant le système orléanais, mais enfin c'est ce qu'on appelle aussi le système Pasteur, avec la mère de vinaigre. Alors ils avaient les uns 10 fûts, les autres 15 fûts, les autres 50 fûts, dans lesquels ils faisaient leur vinaigre. Alors ils achetaient ce vin qui n'était plus bon à la consommation. Et ils achetaient ce vin et ils s'en servaient pour faire du vinaigre et le commercialiser. Et alors à l'époque, il y avait, je sais pas, peut-être 150 ou 160 fabricants de vinaigre. C'était une profession très florissante et très nombreuse. Enfin, ce n'était pas une profession spécifique puisque c'était un à côté de leur métier, bien souvent. Alors évidemment, par la suite, ça s'est clarifié et on est devenu strictement fabricant de vinaigre. Les tonneliers ont abandonné leur métier, des affaires ont pris de l'expansion et d'autres ont complètement disparu. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve 5 sur Orléans.
Ah oui, ah oui. Est-ce que votre production chez Desbois a changé?
Notre production augmente régulièrement depuis, oui, depuis une dizaine d'années. Notre production augmente régulièrement puisque en 5 ans, les 5 dernières années, on a quand même doublé notre production.
Mm-hmm. Et... Ah oui. Mais en nature, est-ce que vous produisez toujours le même type de vinaigre qu'il y a 100 ans?
On produit toujours le même type de vinaigre, mais plus avec les mêmes systèmes de fabrication.
Ah oui. Pas avec le même...
Je ne sais plus les mêmes procédés. C'est-à-dire non. Que le système orléanais que je vous ai montré, enfin, on en garde toujours une petite partie, on en fabrique toujours une petite partie avec ce système-là, mais on ne s'en sert plus que comme vu, pour fabriquer des vinaigres de luxe. Parce que c'est un produit très onéreux, un système qui est très lent également, alors qu'il ne répond plus aux besoins modernes. Alors maintenant, évidemment, on emploie des procédés dernier cri, c'est-à-dire la fermentation immergée, ou alors là, la vitesse de fabrication est bien supérieure, et le rendement également bien supérieur, puisque l'eau, comme c'est un microbe aérobie, et que c'est avec la mer du vinaigre, il y avait beaucoup d'évaporation. Alors, avec un système orléanais, on avait un rendement à peu près de 75%, vous voyez, c'est-à-dire qu'avec un 10 degrés, on fabriquait un vinaigre à 7,5 degrés, alors qu'avec le système immergé maintenant, avec un 10 degrés, on fabrique à 9,7 degrés à 9,8 degrés, c'est-à-dire un rendement de 98%. 97 à 98, enfin, ça dépend des vins aussi. Des fois, on a des bons rendements, mais enfin, la moyenne se situe entre 96 et 98%. Alors, évidemment, c'est sensible comme économie. Et puis, alors, d'autre part, ça prend beaucoup moins de place. Si bien que dans une salle de fabrication maintenant, beaucoup plus de dimensions beaucoup moins grandes qu'autrefois, on fabrique 10 fois plus de vinaigre.
Quelle serait votre production annuelle?
Notre production annuelle gravite autour de 3 500 000 à 3 700 000 litres par an.
Oui. Mm-hmm. Et par jour, combien est-ce que vous pouvez produire par jour?
Par jour, on produit en moyenne 300 à 300... Je vais voir que je ne dise pas de bêtises. Et on va avoir, oui, 3500 litres, je veux dire, oui. Non, parce que ici, souvent dans le métier, on parle en hecto.
Ah oui.
C'est pour ça, et en vous parlant en litres... un hecto, c'est 100 litres.
Ah oui.
Et alors, dans le métier, on dit, on fait tant d'hecto. C'est une habitude professionnelle. Alors que les Belges parlent toujours en litres.
Oui.
Et ça, c'est des questions d'habitude. Oui. Alors, en litres, on produit à peu près 3300 à 3500 litres par jour par appareil, ce qui fait environ 7 à 6000 litres par jour.
Et est-ce que ce sont les possibilités des appareils qui limitent la production, ou est-ce que votre production est plutôt limitée par les ventes que vous pouvez?
C'est la production maximale des appareils que je donne. Il est certain que la production, on est obligé de l'ajuster aux ventes. Mmh. Alors, des fois, on est obligé d'arrêter les appareils. Si par suite d'une saison mauvaise, on a vendu moins de vinaigre, il est certain qu'à ce moment-là, on ralentit la fabrication. Chose qu'on ne pouvait pas faire autrefois avec le système orléanais, parce que le système orléanais, ça demandait toute une préparation. Et si on arrêtait les appareils, il fallait les remettre en route, c'était très laborieux. Alors qu'aujourd'hui, avec la fermentation immergée, ça ne pose pas de problème. On arrête l'appareil, on peut le remettre en service 3 mois après... Ça ne pose pas de difficulté. Il y a un temps de démarrage de fabrication, mais enfin, qui n'est pas excessif. C'est beaucoup plus souple au point de vue fabrication.
Oui. Il y a longtemps déjà que vous avez changé les méthodes de production?
Les méthodes de production, il n'y a guère que 3 ans qu'on a commencé à les modifier. Autrefois, on avait des vieux systèmes. On avait donc le système orléanais, qui est le système traditionnel qui est connu dans le monde entier, que Pasteur a étudié. Et puis alors, on avait des systèmes à copeaux aussi. Alors là, c'était le vinaigre qui était passé dans les copeaux, et c'est le copeau qui retenait le mycoderma acéti et qui transformait l'alcool en acide. Alors c'était des appareils qui marchaient également en continu, jour et nuit, mais qui évidemment n'avaient pas le rendement que de ceux d'aujourd'hui. Tout comme ceux qui existeront dans 15 ans sont certainement encore meilleurs qu'aujourd'hui. Ça, il y a toujours du progrès.
Parlons donc des ventes. Où est-ce que vous trouvez vos débouchés?
Les débouchés, on les trouve sur toute la France. On travaille dans tous les départements sans distinction. On était longtemps handicapés avec les transports, mais maintenant avec l'emballage perdu, puisqu'on fait de plus en plus de plastique, il n'y a plus de poids mort, il n'y a plus de retour d'emballage, alors ça nous permet maintenant d'atteindre toutes les distances.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez un chef du service des ventes?
Non, c'est moi personnellement qui m'en occupe. Mais enfin, on a des représentants locaux sur place dans les départements.
Ah oui, c'est surtout.
Qui sont des représentants à carte multiple, c'est-à-dire qui représentent d'autres maisons, maisons qui ne sont pas des fabriques de vinaigre, mais enfin, ils ont d'autres cartes dans leur portefeuille.
Oui. C'est surtout donc par le biais des représentants que vous cherchez
vos
débouchés.
Oui.
Est-ce que vous exportez?
Non, très peu. Très peu, du fait de notre situation géographique et de notre production qui était toujours insuffisante avec la demande qu'on avait sur le marché français, si bien que l'exportation, pour le moment, pratiquement ne compte pas dans le chiffre d'affaires.
Donc cette production qui me semble énorme en litres ou hectolitres.
Énorme, non, parce qu'on n'est quand même qu'une petite affaire dans la profession.
Combien de salariés?
Entre 15 et 20 suivant la saison, oui. Mm-hmm. Puisque, évidemment, on travaille surtout l'été, à la période des crudités, des conserves.
Ah, vous faites aussi des conserves?
Non, on vend le vinaigre pour les conserves, on vend le vinaigre à des conserves. Non, on fait que du vinaigre, on ne fait absolument pas de conserve, de cornichons, ni de condiments, ni rien du tout. Mm-hmm. Mais on vend le vinaigre à des fabricants de conserves, à des conserveurs. Mm-hmm. Et puis, il y a quand même les conserves faites par la ménagère aussi, parce qu'en France, les ménagères font encore beaucoup de conserves par elles-mêmes.
Alors, vous vous classifiez donc comme une petite entreprise?
Dans la profession, comme une moyenne entreprise. Sur le plan général, petite entreprise. Il est certain que le vinaigre étant un article bon marché, le chiffre d'affaires n'est pas énorme. Enfin, dans la profession, on est dans les moyens, on n'est pas dans les petits. Il y en a des beaucoup plus petits que nous.
Oui.
Mais il y en a des beaucoup plus gros aussi.
Est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait de la dimension de votre entreprise ou est-ce que vous voudriez que l'entreprise...
Je cherche à toujours faire prospérer l'entreprise, mais je ne cherche pas non plus à atteindre des dimensions gigantesques.
Non.
Pas du tout.
Non, pourquoi?
Non. Pourquoi? Parce que je ne pense pas, vu les gros qui existent déjà sur le marché, ou alors à moins d'arriver à une bataille terrible où on risquerait d'avoir le dessous, pouvoir le devenir. Alors qu'en restant à une taille où on est actuellement, en progressant régulièrement, on a des chances de survivre. C'est une question d'équilibre de marché.
Si vous pourriez me parler maintenant de la source des matières premières que vous employez.
Les matières premières, pour l'alcool, c'est l'État qui est notre fournisseur, puisqu'on doit l'acheter à l'État, ou à des distilleries agréées par l'État, ce qui revient au même. Alors là, le prix est fixé par l'État, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de remise possible, quel que soit qu'on soit gros ou petit, on paye le même prix. Quant au vin, on en trouve une partie sur le marché français, mais de moins en moins, si bien que l'État, régulièrement, depuis plusieurs années, nous accorde des contingents de vin du Maghreb, pour pouvoir fabriquer du vinaigre.
Mm-hmm. Ah oui. Votre importation de vin du Maghreb est donc limitée par...
Elle est limitée par l'État, c'est un contingent déterminé, mais qui ne suffit pas à nos besoins. C'est à nous de nous débrouiller après sur le marché français pour trouver le complément, ce qui n'est pas toujours facile.
Non.
Puisque, par exemple, cette année, au mois de février, tous les fabricants de vinaigre de France étaient en rupture de stock. On ne pouvait plus fabriquer de vinaigre parce qu'on n'avait plus de vin.
Comment est-ce donc qu'on calcule? Comment est-ce que l'État calcule la quantité?
Eh bien, l'État calcule le prorata de le contingent, si vous voulez, de chaque fabricant de vinaigre, d'après les chiffres fournis par le syndicat national, basé sur les sorties sur les ventes de l'année précédente. Alors, on totalise, il y a de millions de litres de vinaigre vendus. Chacun touche le prorata de ses ventes propres sur ce quota-là.
Et pourquoi est-ce donc pas facile de trouver le supplément, le complément en France?
Là, c'est très compliqué à vous expliquer parce que c'est tout le marché du vin qui est en cause. Comment vous expliquer ça clairement? L'État actuellement ne considère pas les fabricants de vinaigre comme assainissant le marché du vin. Alors, si bien que du fait qu'on n'est pas considéré comme pouvant assainir le marché du vin, on n'a pas. Comment vous expliquer ça exactement? C'est assez confus parce que vous savez, c'est très compliqué ce marché du vin où l'État s'en mêle. L'État nous laisse libre de proposer le prix aux vignerons. Mais alors, d'un autre côté, on est taxé à la vente, et alors on est donc, si vous voulez, condamné à acheter à un prix nettement inférieur au-dessous des vins courants qui sont fixés par l'État, les vins à bouche. Et alors, à ce moment-là, le vigneron, évidemment, comme on achète beaucoup moins cher, lui n'est pas tenté de nous vendre du vin pour la vinaigrerie. Alors que le problème de la distillerie est différent, puisque la distillerie, elle, est considérée par l'État comme assainissant le marché du vin, a le droit d'acheter beaucoup moins cher, mais le vigneron touche une ristourne à ce moment-là qui complète. Vous comprenez? Alors que nous, on n'est ni l'un ni l'autre. Si bien on en trouve un petit peu, mais enfin que vraiment par accroc, quand le contingent de vin distillé est atteint. Alors à ce moment-là, évidemment, ils ne peuvent plus vendre qu'à la distillerie. Alors nous, ça nous handicape énormément et on comprend d'ailleurs pas du tout pourquoi le gouvernement ne nous assimile pas à la distillerie, puisque surtout que ça ne lui coûterait absolument rien. Ça fait partie des mystères des ministères.
Un moyen de limiter quelque peu la production du vinaigre, donc, semble-t-il.
Non, 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 puisque l'État accepte de nous apporter des vins pour compléter trouver le complément de marchandises qui nous manque. Donc, c'est pas du tout pour ça, non, c'est une politique de marché du vin pour
Pour les vignerons.
Oui, qu'on ne comprend pas même sur le plan national, puisque autrefois on était assimilé à la distillerie, autrefois, et ça ne posait pas de problème. Mais un beau jour, ça a été fini.
Qu'est-ce que ça veut dire assimiler à la distillerie?
Eh bien, considéré comme les distillateurs,
Oui.
donc assainissant le marché du vin. Alors à ce moment-là, on trouvait du vin dans les mêmes conditions que les distillateurs. Mais alors nous, comme on a des prix bloqués depuis fort longtemps, il est certain qu'on ne peut pas acheter au-dessus de nos prix de revient, c'est pas possible, ou alors on va à la ruine. Alors on ne peut donc pas dépasser un prix plafond mais qui n'est pas en rapport avec les prix du vin de consommation.
Est-ce que c'est en partie à cause de votre dimension comme petite ou moyenne entreprise que vous trouvez des difficultés?
Ah non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Parce que nos difficultés, qui ont une proportion donnée à notre échelle, sont proportionnellement beaucoup plus importantes pour une grosse entreprise. Ils ont exactement les mêmes problèmes que nous.
Vous ne sentez pas de pression donc sur vous comme certains autres semblent sentir en France actuellement? On dit que la politique, enfin, on ne sait pas trop quelle politique, mais il y a une politique contre les petites entreprises.
Dans notre profession, non, il y a eu de la concentration dans notre profession. Il est certain qu'on a la Générale Alimentaire qui regroupe maintenant en particulier les SO et qui représente à peu près 45% du marché du vinaigre. Mais il n'empêche qu'on est encore un certain nombre d'entreprises moyennes à pouvoir vivre à côté. Il n'y a pas de pression, si vous voulez, côté gros, la Générale Alimentaire, qui représente le gros bloc de fabrication du vinaigre.
Est-ce que vous pourriez peut-être me parler maintenant du bureau que vous avez? Combien d'employés de bureau avez-vous pour votre entreprise?
Eh bien, au bureau, vous savez, comme on est une petite entreprise, ils sont trois au bureau, et c'est un métier au point de vue vinaigre qui ne demande pas énormément de paperasse, Dieu merci. Alors, actuellement, j'ai trois personnes au bureau.
Et cela vous suffit?
Oh, largement, largement. Avec les machines comptables, des machines électroniques, des machines à calcul électronique, sont largement suffisants avec trois personnes. Non, parce que d'autant plus qu'on ne fait que du gros. On ne fait que des grosses quantités. Mais alors, vous savez, un camion, quand on livre un camion à un client, une facture, et puis c'est fini. Il n'y a pas beaucoup d'écriture comptable à passer, mais enfin, c'est vite fait. Si on faisait beaucoup de détails, le problème serait différent. Mais du fait qu'on ne fait que du gros, ça ne demande pas beaucoup de travail de bureau.
Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas tellement nécessairement de pression sur vous par l'État? Est-ce qu'il y a des pressions syndicales sur vous?
Syndicales.
Oui, c'est-à-dire, est-ce que les syndicats.
Ouvriers, là. Non?
Oui, ouvriers. Ah, oui. Ou patronales. Exercent une pression sur vous?
Les syndicats ouvriers n'exercent pas directement de pression sur nous, puisque comme on n'a pas beaucoup d'employés, on n'a pas de comité d'entreprise. Donc, si vous voulez, je ne sais même pas si j'en ai beaucoup de syndiqués, je ne crois pas. Mais enfin, la pression syndicale s'exerce sur le plan national, par le biais de conventions collectives. Alors là, qui sont signées directement par le syndicat national qui nous représente.
Et en quoi consistent ces conventions collectives?
Les conventions collectives, ce sont des conventions particulières que chaque profession signe avec les syndicats pour améliorer le cadre social légal. Alors ça consiste en augmentation de salaire parfois, en amélioration de conditions du travail, en retraite complémentaire, en congés payés supplémentaires. J'en oublie certainement, mais enfin, vous voyez, c'est des améliorations sur ce qui est déjà acquis et sur ce qui est légal, officiel.
Mm-hmm. Et du côté patronal, quel est le groupement auquel vous appartenez?
Eh bien, on dépend du Syndicat national des fabricants de vinaigre, qui lui-même est rattaché au CNPF.
Bon, alors, je crois que c'est la dernière question que j'avais à vous poser. Je vous remercie beaucoup.
Ah bon,
oui,
voilà.
Oui. Vous voyez. Eh bien, monsieur, j'ai parlé ce matin avec le secrétaire général de la Chambre des métiers qui m'a parlé beaucoup des problèmes des petites entreprises ou des attitudes des artisans devant la vie actuelle. Est-ce que vous pensez que l'avenir reste optimiste pour les petites entreprises ou les moyennes entreprises comme la vôtre, en général?
Optimiste, c'est beaucoup dire. Il est certain qu'on a une certaine angoisse de l'avenir. Qu'est-ce qu'on deviendra dans 10 ans, même dans 5 ans? Ça, c'est difficile à prévoir. Non, je ne suis pas spécialement optimiste. Je ne suis pas non plus spécialement pessimiste parce que j'espère bien pouvoir me défendre sur le plan économique, ça entend. Mais enfin, être optimiste, il est certain que on est amené, du fait des concentrations, à avoir des adversaires de plus en plus importants. On a des clients également qui se concentrent. Donc, ce sont des clients de plus en plus importants, qui sont de plus en plus exigeants, qui demandent de plus en plus de grosses quantités, donc qui posent des problèmes. Alors, je crois quand même qu'on a une place à tenir dans la mesure où on fera des choses que ne peuvent pas faire la grosse entreprise, si on arrive à se spécialiser. On a une rapidité de livraison et on a des contacts personnels que n'ont pas les grosses entreprises, qui facilitent certaines choses. Alors, je pense qu'on a une place à tenir. Mais évidemment, les choses évoluent tellement vite que, vous savez...
D'où vient, selon vous, cette concentration d'aujourd'hui?
Cette concentration, si vous voulez, il faut reconnaître qu'en France, l'industrie comme le commerce était très dispersée. Il y avait des tas de petites affaires ou des affaires de moyenne importance, mais il n'y avait vraiment pas énormément, pas beaucoup tout au moins, d'affaires à l'échelle européenne, puisqu'on parle de l'Europe, évidemment, il faudrait peut-être que les affaires françaises puissent être à l'échelle européenne pour pouvoir au moins discuter à égalité. D'un autre côté, il y a les pressions de l'État qui s'exercent pour faire toute cette concentration, pour justement arriver à créer des affaires à l'échelle européenne. Mais enfin, je ne pense pas que cette politique-là amènera à la disparition complète des petites et moyennes entreprises, des fameux PME dont on parle tant en France en ce moment. Je crois que, et d'ailleurs j'en suis même certain, qu'on a une compétitivité aussi bonne que la grosse entreprise. Il est certain que ça dépend des branches. On ne pourrait pas imaginer un artisan qui fabriquerait des automobiles. Ça, il est certain que c'est impensable. Mais dans des branches comme la nôtre, où on possède les mêmes appareils de fabrication qu'une grosse entreprise, on a les mêmes rendements, on a des services commerciaux beaucoup moins lourds, on a des prix très compétitifs. Mais ça, c'est évidemment, ça dépend des branches. Le problème est tout à fait différent des commerçants ou des artisans. Dans l'industrie, c'est quand même déjà différent. Mais c'est pas le... Dans le commerce, il est certain qu'actuellement, il y a des remue-ménages et puis des situations qui sont difficiles. Et qui, dans certains cas, d'ailleurs, le mouvement est accéléré peut-être même par l'État.
Est-ce que vous seriez tenté de vous associer avec une autre entreprise si nécessaire?
Je ne dis pas que ça ne se fera pas dans l'avenir. Pour le moment, ça ne s'est pas présenté encore. Mais enfin, il se peut très bien que dans l'avenir, on soit amené à fusionner à plusieurs. Enfin, le cas ne s'est pas encore présenté de façon valable, parce que la concentration, il ne s'agit pas de juste poser plusieurs entreprises et puis de dire on représente tel chiffre maintenant. Ce n'est pas de la concentration, ça. Mais c'est une juxtaposition à ce moment-là de plusieurs entreprises, mais c'est pas ça qui améliore les prix de revient, c'est pas ça qui permet d'atteindre une dimension intéressante.
Est-ce que vos concurrents à Orléans, est-ce que vous vous connaissez tous? C'est une espèce de concurrence, une rivalité qui dure.
On se connaît et ça n'empêche pas la rivalité, oui. Tout en se connaissant. Oui. Et une rivalité qui, des fois, est même cinglante, enfin méchante, même des fois, dans certains cas. Ça ne nous empêche pas de nous connaître, de nous rencontrer. Enfin, on reste concurrents, alors il est certain que...
Est-ce que vous vous rencontrez pour des besoins de groupement devant tel ou tel problème, ou pour discuter
On se rencontre surtout sur le plan syndical, quand il y a des questions d'ordre syndical à défendre, enfin d'intérêt professionnel. On n'a pas des rapports amicaux au point de se rencontrer en dehors, non. Enfin, en général, tout au moins, il y en a quelques-uns avec lesquels on se rencontre, plus souvent avec lesquels on est très amis. Mais enfin, dans l'ensemble, il n'y a pas une atmosphère de sympathie qui règne entre nous tout au moins en rire, à part un ou deux collègues. Les autres, on est vraiment avant tout concurrents.
Oui. Mais étant orléanais de naissance, vous devez avoir une vie dans la ville assez pleine de contacts sociaux, d'activités.
D'activité, personnellement, moi, sur la ville, non, j'ai aucune activité.
Non.
Mon père est à la chambre de commerce, lui, depuis fort longtemps. Mm-hmm. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas d'activité sur le plan social à Orléans. Non.
Sur le plan politique?
Non plus. Non,
Vous intéressez à la politique?
Oui, je m'y intéresse comme beaucoup de Français, si vous voulez, mais en parole, si vous voulez. Je ne fais pas partie d'un parti politique. C'est d'ailleurs... une minorité en France qui vraiment sont inscrits à un parti politique. Les gens votent pour telle ou telle étiquette, ont des partis qui ont leurs préférences, mais enfin, de là à s'inscrire à un parti, c'est autre chose.
Oui, pourquoi pensez-vous? C'est si peu suivi, enfin, activement, la politique.
Vous savez, peut-être que la politique en France a un relan de choses assez basses, si vous voulez. Je crois que... Enfin, c'est pas comme ça que je le considère personnellement, mais je crois que dans l'opinion générale, les gens, ceux qui font de la politique, ce sont des gens... Je sais pas, enfin, qui... qui sont intéressés, dirons-nous. Enfin, ce n'est pas mon opinion personnelle, si vous voulez, mais je crois qu'effectivement, la politique est assez mal considérée en général. Tout au moins le politicien. Vous voyez ?
Est-ce qu'il y a un parti politique qui représente vos opinions ?
Moi, personnellement, oui, je suis assez favorable à l'UNR. Enfin, l'UDR maintenant.
L'UDR maintenant.
Il y a très longtemps que je suis gaulliste et je le suis toujours.
Ah oui. Est-ce que le parti ou est-ce que les buts du parti, les objectifs du parti ont changé depuis le départ du général ?
Changé, il y a eu certes, oui, il y a eu une évolution. Mmh. Ce qu'il y a, c'est que c'est la forme qui a changé. Parce que évidemment, il y avait une expression qui était particulière à De Gaulle. Mais enfin. Donc, du fait que l'homme a disparu de la scène politique, celui qui le remplace maintenant ne peut plus agir de la même façon. Donc, son expression est différente. Il y a eu quand même une évolution, parce que, évidemment, De Gaulle était beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus... Comment dirais-je bien ? Enfin, oui, autoritaire, alors que Pompidou est obligé de faire face à des tas de problèmes, est obligé de concilier davantage. Enfin, c'est fatal, chaque homme gouverne en fonction de son caractère.
Mm-hmm. Quoi consiste donc la cohésion du parti après le général ? Est-ce qu'il y a une politique bien définie maintenant pour l'UDR ?
Au point de vue international, il a gardé la même optique que De Gaulle, avec une forme d'expression différente, beaucoup plus souple, moins caressante. Au point de vue intérieur, il essaye d'avoir une action sur le plan social, qui va, à mon avis, un peu dans le même sens que celle que De Gaulle essayait de faire passer. Mais avec beaucoup plus de rondeur, avec beaucoup plus d'écoute des autres, si vous voulez. Alors que, évidemment, avant, ça sortait de l'Élysée. Une fois que l'Élysée avait parlé, évidemment, c'était vu d'une façon tout à fait différente.
Comment définir, donc, la politique ? Quelquefois, on dit que, comme dans l'hémicycle, les couleurs politiques, si on peut mélanger un peu les images, les métaphores, vont de droite à gauche. Mmh. Où est-ce qu'on classifierait le gaullisme, à droite ou à gauche ?
Ça dépend des opinions. Vous voyez, pour beaucoup de gens, ça représente la droite. Moi, j'estime que ça ne représente pas vraiment la droite, parce que c'est un courant qui est assez diversifié, et il y a des gens de gauche qui sont chez les gaullistes. C'est un courant assez large. Comment le définir exactement ? Vous savez, De Gaulle avait rallié autour de lui des gens de droite comme des gens de gauche. Et cette réunion autour du gaullisme, jusqu'ici, autour de l'UNR, subsiste toujours. Des fois avec des grincements, mais enfin dans tout parti il y a des grincements, dans tout parti il y a une aile droite, une aile gauche. Et actuellement, ça subsiste toujours. Est-ce que ça subsistera longtemps ? Je ne sais pas, mais enfin pour le moment... L'audience de l'UDR en France n'a pas l'air de diminuer, si on en croit le résultat des cantonales l'autre fois, où ils ont maintenu largement leur pourcentage.
Mm-hmm. Est-ce que vous regrettez le départ du général ?
Dans un sens, oui. Il avait une façon peut-être irritante des fois de gouverner, mais qui manquait pas de majesté. Ça ne me déplaçait pas tellement, si vous voulez, sur un plan... sur un plan représentatif, si vous voulez, parce que je me fais peut-être des illusions, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un homme qui avait énormément de prestige à l'étranger, qui n'était pas toujours apprécié, parce que surtout les hommes de caractère, c'est ceux-là qui sont les plus visés. Mais enfin, je crois qu'il avait donné une certaine audience à la France qui était particulière à lui, que fatalement Pompidou ne peut pas avoir, parce que c'était, comme on dit, un personnage historique, un peu comme l'était Winston Churchill. C'est des gens qui se sont trouvés à un moment donné dans l'histoire de leur pays qui fait qu'ils jouissent d'une audience particulière. Et même dans le monde, ils jouissaient, je crois. Et au point de vue international, il avait donné un certain éclat qui ne me déplaisait pas tellement. Alors que parfois, il avait des actions qui, évidemment, étaient un peu irritantes.
À part donc son prestige, son autorité, son autoritarisme, qu'est-ce qui faisait le cœur de sa politique? Je veux dire, dans le sens, comme par exemple en Angleterre, la politique travailliste est fondamentalement à origine socialiste. La politique conservatrice est fondamentalement à origine conservatrice, ou enfin les vieux partis conservateurs anglais qui sont pour l'indépendance, la libre concurrence, l'initiative des individus, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que De Gaulle ou son parti existe?
C'est à la fois, si vous voulez, sentimental et économique. Sentimental en le sens que c'est l'homme de la résistance, si vous voulez. Ça, c'est de là que vient en grande partie son prestige. C'est lui qui a redonné son rang à la France en 1944. Et puis alors, par la suite, il y a eu quand même cette politique de décolonisation, cette politique de réforme profonde des structures en France qui avait terriblement vieilli. Moi, j'ai toujours considéré De Gaulle comme un homme de mouvement. C'est pas un homme qui avait des idées préconçues. Il disait, il avait pas les grandes théories. Il agissait selon les nécessités du moment. Il s'est trouvé les trois quarts du temps de son existence devant des choix difficiles. En particulier, parlons pas de 47 d'histoire, mais enfin même quand il s'est agi de la décolonisation, on peut dire que 80% des Français ont été le rechercher pour la faire, parce que personne n'aurait pu la faire, cette décolonisation. C'était quelque chose de terrible, parce que c'était arracher les entrailles des Français que de perdre les colonies. Je ne sais pas en Angleterre comment on considérait les colonies, mais en France, c'était tout le prestige de la France qui s'en allait, c'était la France réduite à l'hexagone, c'était... Alors, il est certain que ça a créé des drames épouvantables à ce moment-là. On l'a vu avec l'OAS, on l'a vu... Enfin, il y a eu donc cette politique de décolonisation, et alors ensuite cette politique qui a essayé de redonner un rang à la France sur le plan international, et puis également au point de vue intérieur, a essayé de redonner une structure à l'industrie française, au commerce français, enfin, a essayé de donner une structure européenne, et je crois que c'était dans la perspective de fonder plus tard, enfin, dans la perspective de l'Europe plus tard. Il est certain que si on veut faire l'Europe, il faut quand même que, en France même, on ait une structure qui puisse s'adapter. Sans ça, on aurait été à la merci des autres pays du marché commun, quel qu'il soit. Or, en industrie, en France, il est certain que c'était beaucoup trop discipliné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Plus tard, quand les passions seront tombées, qu'est-ce qu'il en restera? Qu'est-ce qu'on pourra discerner? Moi, je crois que, dans un sens, c'était un passage nécessaire. Et je crois que c'était le seul homme qui était capable de faire ce passage. Je crois, c'est moi.
Moi, personnellement, je crois que je suis d'accord. Mais je vais arrêter là.